Bonjour à tous et à toutes autour de la grande table d'été. Bienvenue, comme tous les jours, deux parties entrecoupées par une session musicale. Aujourd'hui, ce sera chanson avec Juliette Armanet. Puis aux alentours de 13h30, nous accueillerons le poète Christian Prigent pour lui tirer le portrait. Mais tout de suite, on parle de mélodrame français.
Elle aimait cet homme passionnément. Et quand elle a appris qu'il devait partir pour la Nouvelle-Calédonie, elle a décidé en elle-même, j'attendrai le temps qu'il faudra. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de tuer ma mère.
Quoi ?
Je voulais être certaine que vous m'écoutiez. Bon, je reprends l'histoire de Madame Jauve. Quand elle a appris que son amant s'était marié en Nouvelle-Calédonie, elle a ouvert la fenêtre, c'était au 7e étage. Elle s'est jetée dans le vide. Bon, il se trouve qu'il y avait la verrière d'un restaurant, elle est passée au travers. C'était il y a 20 ans. Maintenant, elle marche avec une prothèse à la jambe droite. Qu'est-ce que vous dites de ça ?
Je dis que cette dame a eu beaucoup de chance.
Alors vous aussi, vous appelez ça de la chance ?
Oui, c'est de la chance. Elle a eu la chance de vivre. Peut-être de pouvoir aimer un autre homme. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. On peut être aimé ou aimé plusieurs fois.
Pour être aimé, il faut être aimable. Et moi, je suis bonne à rien. Bonne à rien. Il y a quelque chose en moi qui éloigne les gens.
Votre mari n'a pas l'air de s'éloigner de vous.
Mon mari m'aime. Mon mari est comme vous. Il fait très bien semblant d'écouter.
Le mélodrame français, c'est l'objet d'une rétrospective qui a lieu en ce moment à la Cinémathèque française à Paris. Autour de la table, pour en parler, Jean-François Roger, qui est directeur de la programmation, et Élodie Tamayot, qui écrit en ce moment une thèse sur Abel Gance. Et puis au téléphone, depuis sa maison du Plan de la Tour, dans le Sud, on aura Paul Vecchiali, cinéaste, qui est programmé parmi les films que vous montrez. Bonjour et merci à tous les trois. Alors, on a ouvert ce plateau avec un extrait de La femme d'à côté, de Truffaut, dont la musique, je crois, est la musique de la bande annonce que vous avez fait de la rétrospective. Jean-François Roger, pourquoi avoir choisi cette musique-là et donc ce film-là ?
C'est marrant de commencer par Truffaut, c'est-à-dire commencer par la nouvelle vague, parce que la nouvelle vague et le mélodrame, ça va pas de soi. Enfin, le mélodrame et le cinéma dit moderne, ça va pas de soi, puisque le cinéma moderne est plutôt un cinéma de la distanciation, de la déconstruction, un cinéma qui se méfie des émotions. Mais des cinq jeunes turcs de la nouvelle vague qui venaient des cahiers, Truffaut est le seul, sans doute, qui ait continué de s'intéresser aux sentiments, à l'expression des sentiments au cinéma, et au romanesque, évidemment. C'est peut-être le seul romantique des cinq de la nouvelle vague, encore que pour Godard on pourrait en discuter, mais en tout cas il y a vraiment cette idée là et donc Truffaut c'est un peu l'exception qui a confirmé la règle du cinéma moderne. Si, enfin, il faudrait inclure demi aussi, mais bon. En tout cas, voilà. Donc cette idée, voilà, le Truffaut, c'est la continuité malgré tout du mélodrame dans le cinéma français à une époque où il était frappé de suspicion. Voilà.
Il y a quand même un film de Godard dans la programmation. En l'occurrence, oui. C'est Vivre sa vie.
Oui. Ah ben, Vivre sa vie, c'est un film absolument magnifique qui est, quand on voit de quoi parle Vivre sa vie, c'est une histoire strictement mélodramatique. C'est l'histoire de la fille perdue, de la jeune fille qui sombre dans la prostitution après un amour malheureux. Mais Godard va s'amuser pendant tout le film à casser l'émotion. C'est-à-dire qu'il y a des moments extrêmement émouvants dans le film et à un moment donné, il casse l'émotion en coupant le son, en faisant un montage, un raccord très abrupt. C'est drôle parce que dans Vivre sa vie, Anna Karina est une spectatrice qui pleure. Elle va voir la Passion de Jeanne d'Arc, il y a un plan sur elle, sur son visage, on la voit en train de pleurer. Donc il y a à la fois cette idée de la force des émotions au cinéma, et aussi cette idée qu'à partir du moment où on la montre, c'est-à-dire qu'on montre comment ça marche, on prend quelques distances. Bon, le film est encore plus complexe que ça, mais en tout cas, voilà, Vivre sa vie, c'est comment faire du mélodrame sans mélodrame, quoi.
On va y revenir à ça. Le mélodrame français, on le connaît finalement assez peu, en tout cas peut-être dans sa cohérence, on le connaît assez peu. On connaît surtout le mélodrame américain, Douglas Sirk, Minnelli. Qu'est-ce qui explique cette préséance-là ? Est-ce que c'est tout simplement l'écrasement général du cinéma américain sur le cinéma français à une certaine époque, Jean-François Roger ?
Disons que dans le cinéma américain, les genres, en tout cas pendant longtemps, c'est plus le cas à partir des années 70, mais en tout cas les genres étaient très strictement définis, tout simplement. simplement, alors là, pour des raisons aussi tout ça, économiques et industrielles, hein, c'est-à-dire qu'on imaginait les patrons des studios produire des films destinés à tel ou tel public, donc qui devaient contenir telle ou telle chose. Donc, les genres cinématographiques dans le cinéma hollywoodien sont relativement clairement définis. Évidemment, vous avez toujours des cinéastes ou des artistes qui jouent avec les frontières. Dans le cinéma français, dont la structure de production était très différente, c'était des petites sociétés de production, la concentration se fait plutôt au niveau de l'exploitation, la notion de genre est plus éclatée, elle est plus incertaine. Alors, on connaît du cinéma français, évidemment, la comédie, il y a une tradition du film policier français. Le mélodrame, c'est moins évident. Voilà, le mélodrame, c'est moins évident, d'abord pour des raisons structurelles, mais aussi, sans doute aussi pour des raisons culturelles, il y a une méfiance dans le cinéma français vis-à-vis de l'expression des sentiments, en tout cas à partir de la seconde moitié du XXe siècle, je dirais après la Seconde Guerre mondiale. Le mélodrame, c'est quelque chose qui est vu un peu avec un peu de soupçon, ça peut expliquer cette difficulté de définir le mélodrame français. C'est un genre très incertain, aux frontières très incertaines, l'idée d'un mélodrame français, ça va pas de soi.
On va en parler d'ailleurs avec vous, Élodie Tamayo, parce que Abel Gance, que je ne connaissais pas, là j'avoue mon inculture que j'ai découvert, est quelqu'un qui a travaillé aussi autre chose que le pur mélodrame. D'ailleurs, c'est pas évident sa filiation. Vous, personnellement, peut-être au-delà de ou en deçà de Abel Gance, qu'est-ce qui vous a attiré, quel est par exemple le premier mélodrame français que vous ayez vu parmi la programmation peut-être de la Cinémathèque et qui a pu vous intéresser?
Il se trouve que ce sera en effet ni au-delà ni en deçà d'Abel Gance, mais bien d'Abel Gance, qui en fait dès les années 10 s'était intéressé à ce qui n'avait pas encore le terme mélodrame, mais qui va le devenir par la suite, à ce qu'il nommait des drames psychologiques dès les années 10. Et ça a été pour le coup une forme qui lui a permis donc très tôt d'investir justement la scène française en se faisant reconnaître pour ses films, mais aussi la scène internationale, et notamment Mater Dolorosa, qui est programmé dans ce cycle du mélodrame français, avait été un immense succès aux États-Unis. C'était une sorte de révolution qui se passait à ce moment-là dans les années 10, où pour la première fois, on imaginait que oui, le cinéma pouvait être en mesure de représenter l'intériorité des personnages, de montrer via des phénomènes de luminosité, notamment via le jeu des actrices, le gros plan. Bref, de représenter une intériorité qui jusque-là était plutôt réservée à des arts nobles tels que la littérature ou le théâtre.
Jean-François Roger, vous parlez dans la petite présentation que vous faites sur le site de la Cinémathèque de d'autres types, d'autres mélodrames, le mélodrame mexicain, italien et aussi japonais. Alors autant italien et mexicain, je peux comprendre, c'est une culture catholique dont on peut imaginer que voilà, c'est une émanation. Autant le mélodrame japonais, j'en ai aucune idée à quoi ressemble le mélodrame japonais.
Là, je suis pas sûr d'ailleurs que ça soit le terme, en tout cas parfait, scientifiquement validé, en tout cas au Japon. Mais il y a évidemment beaucoup d'histoires En fait, dans le cinéma japonais, ça passe par des portraits de femmes, souvent, des portraits de femmes victimes de la société. On peut citer Mizoguchi, qui raconte beaucoup de récits de prostitution, par exemple, de filles. Femme tombée dans la prostitution. Donc il y a cette dimension-là, elle est présente dans le cinéma japonais, et sans doute avec une grande cruauté par ailleurs. À la fois de la retenue et de la cruauté. C'est ce qui peut-être distingue le cinéma, disons, japonais de ces sites des cinématographies, effectivement, vous avez eu raison de le souligner, imprégné de catholicisme. Le mélo catholique italien, c'est un grand genre de l'après-guerre, les années 50, avec de très très beaux films, où là, disons que le mélodrame se mélange à l'opéra, c'est comme s'il y avait des grands airs comme ça tout d'un coup, et on ne recule pas devant les moyens pour susciter l'émotion du spectateur. Le réalisateur italien Riccardo Freda, qui en avait réalisé quelques-uns, avait dit le mélo, c'est très facile, vous séparez une mère de son enfant, ça marche toujours. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'il expliquait un peu rustiquement le succès des mélodrames dans le cinéma italien des années 40 et 50. Quoi.
Ce lien avec la culture catholique, elle est intéressante parce que ça fait passer tout de suite le mélodrame du côté de la morale et d'une question morale.
Pas seulement, c'est aussi ça fait passer le mélodrame du côté de la de de d'une forme d'extase dans la souffrance, quoi. C'est-à-dire, en gros, c'est quand même, on fait plaisir au spectateur en lui montrant des êtres souffrants, hein. C'est évidemment un rapport très ambigu du spectateur au mélodrame. On fait plaisir au spectateur en le faisant pleurer. Voilà. Donc, c'est cette fusion des contraires, en fait, c'est une fusion des contraires qu'on retrouve très bien dans la culture catholique, quoi. L'extase et la souffrance, quoi. C'est vraiment très, très fort. Et ça se retrouve, on parle de mélodrame, mais dans le cinéma d'horreur italien aussi, il y a cette idée-là. Hein. Et donc, il y a cette tradition-là. Et on vous avait parlé du mélo mexicain aussi, qui est une grande tradition de ce point de vue-là. Oui. Oui.
On va rejoindre tout de suite Paul Vecchiali, qui est au téléphone avec nous depuis le Sud. Paul Vecchiali, bonjour. Alors, il y a deux films de vous au programme de la Cinémathèque. Le premier, chronologiquement, est en Corps à cœur, qui est sorti en 79. Alors, Corps à cœur, c'est l'histoire de Pierrot, un très beau jeune homme, c'est Nicolas Silbert, qui est garagiste et qui rencontre Jeanne. C'est Hélène Surgère, de 30 ans, son aînée, qui est pharmacienne, dans un concert. Pas 30, 20.
Non, quand même pas, 15.
Elle est pharmacienne, ils se rencontrent dans un concert où ils partagent le même amour de forêt et lui il en tombe amoureux fou jusqu'à l'autodestruction. On écoute un extrait.
Arrête. Arrête. Tu vas me faire pleurer aussi. Écoute, on a l'air malin comme ça. Les deux orphelins. Allez, viens manger. Je t'ai pas servi pour pas que ça refroidisse. Mais arrête, merde!
Tu crois que ça va mieux?
Ouais, ben, tes états d'âme, ça va un moment.
Je suis pas malheureuse, non, je pleure tout le temps.
Mais tu pleures parce que tu peux pas jouir. C'est bien connu.
J'ai jamais pleuré ni toi ni de chagrin. Ben, je pourrais plus le dire.
Je t'apporte ton steak.
Non, je peux bien avaler, je me ferai que boire.
Bah évidemment, tu déshydrates à force.
Ça va passer, il n'y a aucune raison pour que ça ne passe pas. C'est con, cool, hein, oui. J'ai envie d'étrangler.
Quelle conne. C'est elle?
Je crois.
Réponds pas.
Téléphone?
Si tu réponds, t'es pas un homme.
Paul Vecchiali, à propos de ce film, vous disiez qu'il était plus près du populisme que du mélodrame. Qu'est-ce que ça veut dire ?
En revanche, vous avez entendu citer les deux orphelines, et précisément, je pense qu'il y a... Moi, je ne crois pas que Corps à cœur soit un mélodrame. Je pense que c'est plus un drame ou même une tragédie, parce que la définition du mélodrame, quand même... c'est que les gens sont victimes d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne se prennent pas en charge, qu'ils sont victimes du destin. Or, dans Corps à cœur, aussi bien Jeanne Michel, Hélène Surgère, que Pierrot, Nicolas Silbert se prennent tout à fait en main. Je veux dire, la séquence où Nicolas Silbert vient habiter devant la pharmacie, qui est à la fois drôle et tragique, c'est que sont quand même des gens qui maîtrisent leur destin. Or, si j'ai cité les deux orphelines à un moment donné dans le texte, vous avez bien fait de choisir cet extrait, c'est possiblement pour m'en démarquer, parce que les deux orphelines, ils subissent. Ils vont pas au-delà de la lutte, ils vont pas vers la lutte contre le destin. Je sais pas si je suis assez clair.
Jean-François Roger.
Oui, mais on peut dire aussi que le c'est là dans la tragédie que les hommes sont victimes des dieux, en fait, et le mélodrame, justement, il y a des mélodrames où les personnages essayent de se prendre en main, même si ça les conduit à la mort.
Les orphelines, par exemple, hein, ne se prennent pas du tout en charge. Par ailleurs, Jean-François, tu as parlé du mélodrame japonais, il y a quelqu'un qu'il faut citer immédiatement, c'est Mizoguchi.
Oui, j'y pensais.
Quand on voit l'Intendance de Show, par exemple, c'est effarant, c'est le mélodrame explosé. La mère qui appelle ses enfants par-dessus les mers, en boitant parce qu'on lui a coupé le jarret. Moi, je pense que ça, c'est du vrai, vrai mélodrame. Parce que rien ne les sépare de la douleur. Je crois qu'il y a dans Corps à cœur quand même un élément plus activiste, je dirais, si ce mot n'est pas trop abstrait.
Paul Vecchiali, le film Corps à cœur est dédié à Grémillon. C'est un cinéaste sur lequel vous avez écrit, que vous aimez beaucoup. Qu'est-ce qu'il a fondé chez vous en tant que cinéaste ?
Oh, vous savez, ça, ce sont des choses qui ne se peut pas le dire. Je veux dire, moi, je serais très, très malhonnête de dire d'où ça vient. Ça m'a certainement influencé, puisqu'il y a même des films où je cite, sans m'en rendre compte, une phrase de Grémillon. Un critique me l'a fait remarquer après. Donc, vous voyez, je veux dire, ces influences-là sont des influences subtiles. On ne peut pas dire Grémillon. Bon, je peux parler de l'honnêteté, je peux parler de la rigueur, je peux parler de ces choses-là, mais ça, je crois que je les avais en moi déjà. Peut-être que je les ai reconnus chez Grémillon, de là à dire qu'il m'a influencé, je pense que c'est à un critique de le dire, pas à moi.
Jean-François Roger.
Oui, enfin, les films de Paul Vecchiali, quand ils sont apparus, en fait, surtout, je pense pas Corps à cœur, mais d'autres, on est dans les années 70 quand on commence à les voir, et c'est une période, et ça nous a fait un bien fou, en fait, c'est-à-dire que c'est une période très riche dans le cinéma français, les années 70, mais une période désenchantée, une période sombre, une période où, encore une fois, on se méfie de tout, et voilà quelqu'un qui se met à raconter des histoires mélodramatiques ou populaires, enfin, on peut discuter du terme au milieu de cette ère du temps là en ayant intégré les leçons de la modernité, parce que quand l'extrait du dialogue où le personnage cite les deux orphelines, c'est-à-dire que ce sont des personnages qui sont conscients de leur place dans l'histoire, etc., et en même temps il y a un retour comme ça de l'émotion après avoir intégré l'histoire du cinéma français, évidemment Grémillon, mais aussi le cinéma moderne. Et je trouve que si on parle des, plutôt que de parler des influences du cinéma de Paul Vecchiali, moi je me place comme le spectateur qui l'avait découvert assez jeune à l'époque, comme quelque chose qu'on n'attendait pas et quelque chose d'un peu miraculeux dans le cinéma français.
Paul Vecchiali, vous aviez conscience de ça, de faire quelque chose de très différent à cette époque-là ?
Vous savez, on n'a pas trop conscience de ce qu'on fait, on a envie de faire. Après la conscience, bon, je me rendais compte que j'allais un petit peu à l'inverse de ce que faisait la Nouvelle Vague, et en même temps en ayant reçu les leçons de la Nouvelle Vague. François Truffaut avait une formule, d'ailleurs, quand il a vu mon premier vrai film, Les Ruses du Diable, il a dit « il y a à la fois la chose et la critique de la chose ». Ce que j'appelle, moi, la dialectique, qui est devenue maintenant mon atout majeur, comme dirait Michel Delpech. Oui, évidemment, une conscience, mais une conscience un peu étale. La conscience d'être différent, la conscience d'avoir voulu, et nous étions quelques-uns comme ça, avoir des dégoûts du naturalisme, avoir voulu donc restituer auprès du spectateur le sentiment et la notion de personnage, la notion aussi des petits rôles qui s'étaient un petit peu en allé avec la cérébralité de la Nouvelle Vague qui donnait une part plus entière aux personnages principaux. Oui, ça, j'en avais conscience, et nous en avions, nous, les gens de Diagonale, nous en avions conscience, oui.
Jean-François Roger, c'est intéressant ce que dit là Paul Vecchiali, aussi du point de vue de la définition du mélodrame sur ce refus du naturalisme, de la psychologie, et également de la construction de personnages vraiment identifiés, forts, qui sont de vrais héros.
Oui, oui, tout à fait. Mais je pense que c'est surtout la croyance qui fait la force du mélodrame, c'est la croyance des cinéastes. Le cinéma français des années 50, par exemple, est un cinéma un peu qui joue un peu sur la perte des illusions, etc. C'est un cinéma où le mélodrame ne se portait pas bien parce qu'on se méfiait des sentiments. On n'y croyait pas, en fait. Voilà, on n'y croyait pas. Le cinéma dit de la qualité française, en gros, il faudrait rentrer dans le détail, c'est un peu schématique, mais ne croyez pas à l'expression des sentiments. Et évidemment, donc, dès qu'il y a une croyance forte, une croyance dans des personnages, une croyance dans des situations aussi, même aussi extravagante soit-elle, tout d'un coup, on peut tout faire.
C'est aussi pendant l'occupation que j'ai vu mon premier film, enfin, que j'ai eu mon premier choc cinématographique. Un jour, mes parents m'ont emmené voir Paradis perdu, qui avait une particularité, c'était de prendre pour sujet la guerre de 14. Et par coïncidence, ce film qui avait été tourné juste un petit peu avant-guerre sortait en pleine guerre, sortait je crois en 41 ou 40, il avait une valeur de choc absolument imprévue, mais extrêmement forte, qui fait que les salles d'abord étaient pleines, et elles étaient pleines de gens qui pleuraient. C'était un spectacle extraordinaire. Je n'ai jamais retrouvé au cinéma une émotion collective comme à l'époque de Paradis perdu, où la salle était composée évidemment de femmes, et puis de soldats, de permissionnaires, de gens qui étaient là et qui ne savaient pas combien de temps ils resteraient ensemble. Et en même temps, il y avait cette émotion des films pendant la guerre, où on se disait toujours, il va y avoir une alerte, il faudra descendre à l'abri, on ne verra pas la fin du film. Et c'était le premier film que je voyais, enfin le premier film dont je suis conscient en tout cas. Et il durait, il était très long et j'avais peur qu'il s'arrête, je voulais qu'il soit encore plus long.
François Truffaut, qu'on entendait là parler de son goût pour le mélodrame, il n'était pas le seul à cette période qui était celle de l'occupation et puis juste après-guerre à aller voir des mélodrames au cinéma, puisque c'est vraiment un genre qui est lié à cette période-là en France. Comment on peut expliquer que ce genre-là était si adapté à cette période de crise-là, Jean-François Roger ?
Parce que c'est une forme suprême de divertissement, le mélodrame. C'est-à-dire que là, c'est un film qui arrive à vous faire pleurer. Ça veut dire que vous sortez de vous-même et vous êtes absorbé par le film. Donc, on peut expliquer la force du mélodrame dans le cinéma français des années 30. Et jusqu'à, ça continue dans les années 40, jusqu'à la fin de la guerre, en fait. C'est après-guerre que ça va devenir plus compliqué. Mais avec cette volonté, ce désir très fort des spectateurs de se divertir. Alors, c'est paradoxal, se divertir en pleurant, mais il y a cette force-là, oui.
Mais c'est pas forcément seulement ça. Il y a peut-être aussi quelque chose de politique dans le fait que ce genre-là, qui construit et défend des valeurs morales extrêmement bien identifiées dès le départ, soit une forme de refuge aussi pour, je ne sais pas, une idéologie réactionnaire, du moins conservatrice à ce moment-là.
C'est plus compliqué que ça, parce qu'on peut pas dire que les films de Grémillon, par exemple, soient des films qui défendent une idéologie conservatrice. C'est vrai que sous Pétain, par exemple, il y a ce qu'on appelait le mélopétainiste qui se portait bien, parce que le mélodrame était un éloge de la maternité et de la famille. Hein, ça pouvait être ça. Mais les grands cinéastes, les grands mélodrames sont quand même un peu pervers. C'est là où ça devient vraiment intéressant, c'est que quelque chose se détraque justement dans l'ordre social ou l'ordre familial, qui fait qu'un mélodrame, tout d'un coup, devient très très intéressant. Je pense évidemment au film de Grémillon, La force de la passion, elle détraque tout, là, pour le coup, elle s'attaque à l'ordre social, là, pour le coup. Je pense aussi à d'autres films de cette époque, peut-être signés par des cinéastes moins connus. Je pense à certains films de Léonide Mogui, par exemple, l'histoire de deux sœurs, d'un sacrifice, un film qui s'appelle Conflit, deux sœurs, un sacrifice, où justement, la notion de maternité est un peu bousculée. Donc, je pense pas qu'on puisse réduire le mélodrame à une idéologie uniquement conservatrice et bien pensante. Et de toute façon, je pense que les grands mélodrames sont emportés par quelque chose qui est beaucoup plus fort que ça et qui vient justement bousculer les clichés, les conventions, disons, les conventions sociales.
Conflit, c'est un des trésors cachés que vous révélez dans votre programmation, un film donc de Léonide Mogui. On en écoute un petit extrait.
Et qu'est-ce que je vais devenir maintenant ? Ah, tout est trop mal fait, tiens. C'est drôle et pas juste. Si ça m'était arrivé à moi, j'aurais été tellement heureuse. Michel ne serait jamais parti. Un nouveau-né, c'est plus intéressant qu'un pays lointain. Tu vas croire que je suis devenue folle si je t'avoue le projet qui me hante.
Mais quel projet ?
Mais pourtant, si nous l'exécutions, tu pourrais prétendre à un avenir normal et je te jure que ton enfant serait heureux.
Parce que tu l'adopterais ?
Pour que personne ne sache ce qui t'est arrivé, il faudrait que je fasse plus que de l'adopter.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'aux yeux de Michel, aux yeux de tout le monde, il faudrait que je sois sa mère.
Alors, d'où vient ce film ? Comment vous l'avez redécouvert ? Et surtout, à quoi est-ce qu'il ressemble, Jean-François Roger ?
Oh, je l'ai découvert, je crois, par hasard, au gré d'un achat de DVD. Et j'ai été. Je connaissais un peu le cinéma de Leonid Mogil. Je savais que c'est un cinéaste qui n'est pas inintéressant. Il y a de tout dans sa filmographie, mais il y a quelques objets plutôt curieux. Et je suis tombé sur ce film un peu déjà avec l'idée de travailler sur une histoire du mélodrame français. Donc et le film m'a beaucoup plu. Il est comme souvent d'ailleurs, les personnages féminins sont beaucoup plus intéressants que les personnages masculins. Hein, ça c'est une chose qui m'avait frappé. Il y a toujours le défaut de certains mélodrames, c'est l'emphase de certains acteurs. Les actrices sont parfois plus fines en fait. Et je trouvais que les personnages féminins étaient très très riches. Il y a cette idée évidemment de la maternité par procuration, qui est de toute façon une idée assez enfin qui est encore une idée actuelle. Hein. C'est pas du tout quelque chose qui est perdu dans la nuit des temps. Et donc, finalement, une forme de transgression quand même. Hein, les liens du sang, voilà, sont pas les bons. Non, ça peut y avoir autre chose. Et le film, je trouvais très élégant. Il m'a beaucoup plu. Et il y a eu, le saviez-vous, il y a eu un remake américain du film qui s'appelle Her Sister's Secret par Edgar Ulmer quelques années plus tard. Donc, le sujet était suffisamment fort pour intéresser des bons cinéastes.
Je vais revenir à cette période de l'occupation et notamment du mélodrame pétainiste en parlant d'Abel Gance aussi, Élodie Tamayo, qui a réalisé un film qui est dédié au maréchal Pétain en 1941. Le film s'appelle La Vénus aveugle, il est d'ailleurs programmé et on en écoute aussi un extrait.
Je ne veux plus te voir, je ne veux plus entendre parler de toi, je ne veux plus entendre le son de ta voix. Tu es mort pour moi en même temps qu'elle. Pars, Madère. Je n'aime pas les hommes qui pleurent. Il ne te reconnaît pas, lui non plus. Tu n'es plus chez toi, va-t'en. Va-t'en. Ne me touche pas. Surtout, ne me touche pas. Va-t'en. Tu vois bien, je ne pleure même pas. Va-t'en. Les hommes.
Est-ce qu'il a quelque chose de pétainiste au-delà de la dédicace, ce film, Élodie Tamayo?
Ça, c'est une question qui est un peu retorse, en effet, d'autant plus que la fameuse dédicace vient à un moment où Gance est inquiété et sur liste juive. Donc, la question de savoir si c'est un enthousiasme réel pour la politique de Pétain qui vient juste de se mettre en place ou si c'est aussi une stratégie pour se défendre, la question reste entière. Et au-delà de ça, c'est sûr que dans ce film-là, on trouve des motifs qui vont par la suite être très bien accueilli dans la France de Vichy, en tout cas à ses débuts, parce que quand le film sort en 41 en zone libre, il est acclamé par le public qui se reconnaît dans cette histoire, mais moins peut-être pour des valeurs, comme vous disiez, conservatrices, etc., que pour en fait l'adhésion qu'il propose en termes de fiction consolatrice. C'est comme ça que
Il faut peut-être en préciser, oui, voilà, préciser l'intrigue.
Préciser un petit peu l'intrigue, mais c'est donc l'histoire d'une jeune femme qui va devenir aveugle, qui va perdre au-delà de la vue un enfant, etc. Bref, qui subit des deuils vraiment douloureux. Et une fois qu'elle perd la vue, toute la communauté du port où elle se trouve décide de lui jouer une fiction qui serait celle d'un voyage. Et donc c'est un voyage immobile qui se met en place sur un bateau. On lui fait croire que le bateau avance via des trucages sonores, des trucages olfactifs, etc. C'est une immense mise en scène en fait qui se met en place autour de la jeune aveugle. Et finalement, ce qui se passe, c'est que la cabine du bateau devient la cabine de projection où le film se redouble. Et cette idée-là était très chère à Gance, lui qui pensait que la fiction pouvait vraiment sauver le monde. Et qu'en y adhérant, on pouvait en effet exalter des sentiments, une compassion, de recréer des liens sensibles, mais presque au sens photographique du terme. D'être impressionné à nouveau, ça lui paraissait être le premier chemin vers une paix retrouvée, quoi.
Abel Gance, quand on lit un petit peu son histoire, on a l'impression que sa vie en elle-même est une sorte de mélodrame, Élodie Tamayo.
Oui, il y a un aspect, enfin, au-delà du mélodrame, peut-être très romantique en effet, d'autant plus qu'il a perdu une femme très, très jeune et qu'il s'est ensuite marié avec sa sœur. Donc un motif très Edgar Allan Poe, quoi, de retrouver des, comme ça des doubles et des formes perdues tout au long de sa vie en effet.
Je le disais tout à l'heure, quand on lit son histoire brièvement, la catégorie mélodramatique, elle saute pas aux yeux tout de suite. On a l'impression qu'il a fait beaucoup de films spectaculaires, des films à machine, et puis cette grande fresque sur Napoléon inachevée. Quel serait le lien que vous, vous voyez entre dans sa cinématographie, dans sa production ?
Il se trouve qu'en fait, ces grands drames à machine, comme vous dites, c'est peut-être ceux qui sont le plus proches historiquement en fait, de ce qu'était le mélodrame en termes de théâtre. C'est ce que disait Théophile Gautier, notamment, qui était un grand amateur du mélodrame en théâtre, qui disait qu'il s'agissait de tragédies de l'œil, de tragédies optiques. Et dans ce sens-là, Gans fait complètement du mélodrame. En termes techniques aussi, c'est peut-être ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'au-delà des motifs psychologiques, le mélodrame c'est aussi un genre qui permet en fait le déploiement de ces machineries optiques, de ce déballement d'effets. Je peux donner juste un exemple, je pense qui serait intéressant de soulever, c'est La Roue, une tragédie des temps modernes, comme Gans l'appelait, et qu'on peut désigner comme, voilà, sous le terme de mélodrame, et pour lequel Gans a inventé ce qui s'est ensuite appelé le montage rapide, pour figurer la mort d'un personnage qui voit littéralement la vie devant ses yeux lorsqu'il meurt. Gans invente un montage qui va jusqu'au flicker, qui défie la persistance dite rétinienne. Donc voilà, mélodrame et effet technique se combinent bien.
Paul Vecchiali, vous êtes toujours au téléphone avec nous, vous vouliez intervenir.
Non, je voudrais dire que je bois du petit lait parce que Jean-François Roger ait cité Conflit, qui moi, est un film qui m'a ravi. Et par ailleurs parler de Gans, qui est pour moi un des plus grands cinéastes français. Mais je suis étonné qu'on ne parle pas d'un film de Gans très très peu connu, que moi j'aime énormément, qui s'appelle Le voleur de femmes, où Jules Berry est absolument époustouflant. Et c'est un mélo, et je pense aussi à un grand amour de Beethoven, qu'il fallait quand même qu'ils se rencontrent ces trois-là, hein. Beethoven, Henri Bor et Abel Gans... Donc je suis très très heureux d'avoir participé à cette émission.
Elodie Tamayo, les deux films que cite Vecchiali.
Oui, en effet, moi, des deux films que cite Vecchiali, c'est vrai qu'Un grand amour de Beethoven, pour moi, une clé vraiment fondamentale aussi, et qui est très intéressante aussi à penser du côté du mélodrame, qui là encore investit la musique de façon première, et dans Un grand amour de Beethoven, c'est particulièrement le cas, en effet.
Justement, sur la musique, et puis aussi d'ailleurs sur Abel Gans, je crois que lui a eu, comme beaucoup, du mal à passer le cap du parlant. Qu'est-ce qui s'est passé dans le mélodrame français au moment du passage au parlant, Jean-François Roger ? Est-ce que la forme a dû évoluer ?
Il était très présent enfin, comme le dit bien Élodie, il est présent dans le cinéma français, parce que le cinéma français des années 10 et des années 20, donc le cinéma français muet, il est souvent sont les adaptations de feuilletons populaires, enfin donc des histoires très mélodramatiques. Le cinéma sonore a été à la fois la continuation de cette veine-là, mais aussi peut-être l'apparition d'une dimension plus théâtrale. Voilà, dans les mélodrames. Voilà comment je verrais le passage du... La vraie rupture, elle se fait pas avec le parlant, elle se fait, je pense, après la Seconde Guerre mondiale. C'est là où il y a vraiment une rupture, où là, on ne fait plus des mélos comme on en faisait avant. D'ailleurs, le problème de faire un mélo... Le désir de faire un mélodrame et devient plus compliqué à réaliser. Mais je pense que la vraie rupture, elle est là, c'est 45, c'est l'après-guerre, quoi. C'est l'après-guerre.
Et comment vous l'expliquez ? Uniquement des raisons esthétiques ? L'arrivée de la nouvelle vague met tout par terre ?
Non, c'est avant l'arrivée de la nouvelle vague. Moi, je pense que c'est le cinéma français des années, la fin des années 40, le cinéma français des années 50, qui est un cinéma, c'est un cinéma qui s'embourgeoise un peu. C'est un cinéma qui, alors, il a été parfois attaqué par les journaux de vague sous la dénomination de qualité française, mais en gros, c'est un cinéma, quand vous prenez énormément de films de cette époque-là, le sujet de la perte des illusions, par exemple, est un sujet qui est très très présent, très fréquent. Or, si vous ne croyez pas en quelque chose, quitte à s'illusionner, vous ne pouvez pas faire de mélodrame. Enfin, et donc, je pense que la vraie crise du mélodrame, elle apparaît à la fin des années 40, après la Seconde Guerre mondiale, hein, c'est le cinéma dit de la qualité française est un cinéma plus désenchanté. Le désenchantement, c'est un cinéma qui constate la perte des illusions, ne peut pas faire bon ménage avec le mélodrame. Mais ce qui se passe dans les années 50, et ça c'est une chose que j'ai découverte un peu en travaillant sur le sujet, c'est que le mélodrame ne va pas disparaître, mais il va prendre une forme un peu bizarre, un peu souterraine, un peu dégradée. C'est les récits de prostitution, en fait, qui sont, alors sont des films un peu, on dirait, je sais pas, des films un peu sexy, les premiers films de François Zarnoul, des films où on a parfois l'assurance de voir durant 2 secondes une poitrine féminine dévoilée, etc. Donc ce sont souvent des récits de prostitution, de jeunes filles qui sombrent dans la prostitution. C'est d'ailleurs assez, pour le coup, plutôt des films qui s'adressent autant à un public féminin qu'à un public masculin, peut-être même un peu plus à un public masculin. Mais quand on revoit toutes ces histoires-là, et d'ailleurs Léonid Mogy en a fait, hein, Le Long des Trottoirs, par exemple, un film de Léonid Mogy, il y en a d'autres, je pense à Kate Grenelle avec François Zarnoul, et plein d'autres, et énormément d'autres dans les années 50, c'est la forme mélodramatique qui disparaît du cinéma de qualité, continue souterrainement à exister sous une forme dégradée à travers ces récits de jeunes filles perdues. Et donc ça, c'est très curieux, c'est vraiment très très curieux, et assez amusant en fait.
Moi, je trouve pas ça si curieux si on considère que le mélodrame au cinéma prend ses racines, bon, à la fois dans le théâtre, évidemment, le mélodrame du 19e, mais qui lui-même prenait ses racines dans un roman populaire du début 19e, qui, roman populaire du 19e, s'occupait beaucoup de ces questions-là, de prostituées, je pense à La fille Elisa, ou à des romans de Zola. C'est quelque chose qui est, au contraire, très prégnant dans une certaine culture populaire, du drame populaire du 19e siècle.
Oui, mais l'intérêt, je dirais, commercial de ces films, c'était un intérêt un peu de voyeuriste, il y avait une dimension un peu voyeuriste, quoi. C'était ce qui expliquait la production de ces films aussi. Alors donc on reprend la censure se libère un peu, en tout cas on peut faire dans le cinéma français, on peut montrer dans le cinéma français beaucoup plus de choses que dans le cinéma américain ou le cinéma anglais. Donc on en profite, et ces récits mélodramatiques sont très commodes en fait voilà, c'est comme vous l'avez dit, ces récits qui viennent de très loin, ces histoires de filles perdues qu'il faut sauver à la fin de l'histoire, tout d'un coup ils ont une espèce de seconde, enfin, il y a une résurrection de cette forme là qui s'explique aussi pour des raisons de opportuniste, hein, mercantile, mais peu importe, il y a de temps en temps des petites perles à l'intérieur de cette catégorie-là.
Oui, il y a un film que vous portez au nu, c'est Noces Blanches de Brissot. Oui. Dans la bande-annonce d'ailleurs de la rétrospective, il y a un plan qui est un travelling arrière sur Vanessa Paradis qui est assise à une table de cuisine avec un regard caméra. Qu'est-ce que ce plan dit du genre même du mélodrame ?
C'est surtout qu'est-ce que le cinéma de Brissot incarne, hein, avec cette idée du mélodrame. C'est-à-dire que ce qui est formidable avec Brissot, ce qui en fait peut-être un des plus grands cinéastes français, c'est quelqu'un qui n'a absolument aucun second degré. C'est quelqu'un qui aborde frontalement ce dont il parle, et par ailleurs c'est un cinéaste qui est obsédé par la mise en scène de l'émotion. Et donc il ne fait que travailler cette idée-là, l'émotion mélodramatique, mais c'est aussi l'émotion de la peur, par exemple. C'est un grand connaisseur de l'œuvre d'Hitchcock, par exemple, Brissot. Et je trouve que c'est le grand cinéaste mélodramatique, c'est le survivant en fait de cette idée très forte qui est qu'on peut de façon très frontale et sans aucune ironie, émouvoir le spectateur par la force de la mise en scène. Et vous avez parlé de ce plan et de ce regard caméra de Vanessa Paradis. C'est évidemment quelque chose qui nous touche, qui touche le spectateur au cœur, quoi. Et ça, c'est la force du cinéma de Brissot. Elle est dans son innocence, dans sa pureté, quoi.
Pour les réalisateurs aujourd'hui en France, on a un peu l'impression que le mélodrame est un exercice de style. Je pense par exemple à Une autre vie d'Emmanuel Mouret, qui est ce film avec Joe Starr et une actrice italienne dont j'ai oublié le nom, qui est vraiment pour le coup un pur mélodrame, mais dans un parcours, celui d'Emmanuel Mouret, qui ne travaille pas du tout par ailleurs ce genre-là. Est-ce que c'est pas une forme de dévalorisation aussi du genre d'en faire un exercice de style ? Jean-François Roger.
Moi, je trouve, vu l'état actuel de la production en France, vu le public de cinéma tel qu'il est aujourd'hui, je trouve toujours estimable l'idée d'essayer de refaire un mélodrame, de s'attaquer à une forme périmée. Comme il y en a peu, évidemment, ça ne peut être. En tout cas, ça apparaît vite comme un exercice de style, comme vous dites, évidemment. Mais je trouve ça quand même relativement respectable d'essayer de le faire. Le problème, enfin je dirais, du cinéma contemporain, c'est celui de son public, enfin du public, en tout cas du désir du public, qui est beaucoup plus incrédule, qui est beaucoup plus ironique. Ça commence avec le cinéma moderne, hein, c'est pas récent, mais ça, on est vraiment dans le second degré, dans l'ironie, dans la blague aussi, hein. Les comédies, ça marche, bonne ou mauvaise. Enfin, les comédies ont beaucoup de succès. Et il y a sans doute le problème. Il faudrait que le spectateur lui-même retrouve une forme, non pas une innocence, parce que c'est idiot, il a jamais été innocent, mais une forme de disponibilité que, visiblement, en tout cas, il n'a pas vraiment, quoi. Le film d'Emmanuel Mouret n'a pas été un succès. Mais le film de Brissot, alors évidemment, c'est beaucoup plus ancien, le film, il y a maintenant 30 ans, Noce Blanche. Mais ce qui était magnifique, c'est que c'est un très beau film, et en même temps c'est un film qui passait à la télévision sur la première chaîne le dimanche soir à 20h30. C'est-à-dire qu'il avait réussi une alchimie aujourd'hui impensable, qui est de réaliser un mélodrame populaire. Alors, lorsqu'un jeune auteur s'essaye au mélodrame, vous avez raison, ça paraît tout de suite comme un exercice de style, ça paraît tout de suite comme quelque chose d'un peu comme une expérience de laboratoire, plutôt que comme le désir d'aller à la rencontre d'un public qu'on arriverait à faire pleurer. Je pense que peut-être que Brissot est le dernier à avoir réussi ça, le dernier et le seul. Mais il faut encourager les réalisateurs
à faire des mélodrames. Mais est-ce que chez des jeunes, par exemple, je pense, bon, pour le coup, il n'est pas français, mais il est quand même francophone, et il y a quelque chose de cette culture-là, il fait surtout jouer beaucoup d'acteurs français. Chez Xavier Dolan, il n'y a pas quelque chose, justement, de cet appel à une disponibilité émotive chez le spectateur assez simple et assez primaire? C'est pas quelque chose que vous voyez?
Oui, mais c'est un cinéma de la sensation. Moi, je dirais que Xavier Dolan, il est plutôt du côté du blockbuster que du côté du mélodrame, hein. Que soit ce qu'on pense de ces films, c'est un cinéma de la sensation, et c'est quand même un cinéma qui est très imprégné de naturalisme. C'est quand même là le naturalisme du jeu des acteurs, le naturalisme des situations, l'hystérie par exemple, hein, qui est chez lui presque une forme. Je pense pas, je le classerais pas dans le mélodrame, totalement quoi. Même si effectivement dans son dernier film qu'on a vu à Cannes, il y a des éléments comme ça qui peuvent faire penser au mélodrame. Il me semble que le traitement n'est pas du tout ça.
Un grand merci à vous, à tous les trois. Paul Vécali, vous étiez au téléphone. Vos films sont sortis en intégrale de coffret publié par Shellac. Élodie Tamayo, bon courage pour la suite de vos recherches. Jean-François Roger, la rétrospective à la Cinémathèque, c'est jusqu'au 31 juillet prochain. Et demain, par exemple, on projette Paradis perdu d'Abel Gance. Dans un instant, on retrouvera le poète Christian Prigent pour le portrait du jour. Mais tout de suite, c'est le live programmé par Boris Pinault.
France Culture, la grande table d'été, Lucille Como.
Et c'est Juliette Armanet qui s'est installée dans le studio après bien des pérégrinations et un piano qui n'arrivait pas. Sur la pochette de son premier album, elle porte la queue de cheval en bas du dos. Les quatre titres sont autant de chevauchées romantiques vers des horizons joliment kitsch, mélodiques et mélancoliques. Elle interprète pour nous aujourd'hui Adieu Chin Chin. C'est un extrait de son album Cavalier Seul. Juliette Armanet, c'est à vous.
Adieu, tchin tchin. Je sens qu'il y a plus de place dans le dune. Je sens qu'il n'y a plus l'espace pour un happy ending. Adieu, tchin tchin. Faut que je pète toute la vaisselle de chine. Que je casse ta belle gueule de skin. Faut pas que je couvre les chines. On fera pas du jour. Je lance la bouteille à l'amour. Far away vers l'océan. Faut pas faire semblant. Mais je t'aimerai toujours. Avec les vagues tout autour. Accroché comme une enfant. Adieu. d'une. Je reviendrai rôder sur nos ruines. Je reviendrai me rouler dans le spleen avec toutes mes copines. On fera pas du jour. Je lance la bouteille à l'amour. Far away vers l'océan. Faut pas faire semblant. Accroché comme une enfant à notre récipient. Adieu, Tchin Tchin. T'as fait de ma vie un truc sublime. Ton traîneau d'or, c'est toi le mieux. Je traîne pour les deux.
Adieu Tchin Tchin en direct, Juliette Armanet était dans notre studio, elle sera en concert le 18 novembre à la Cigale à Paris, puis le 21 à Bordeaux, ce sera dans le cadre du Festival des Arts Rock, et son EP Cavalier Seul, Seul avec un E est disponible chez Barclay. Merci beaucoup à vous. Et bonjour Christian Prigent.
Bonjour.
Vous êtes poète, vous êtes fondateur à la fin des années 60 d'une revue littéraire d'avant-garde qui s'appelait TXT. Vous avez publié depuis les années 80 de nombreux ouvrages, des recueils, des essais sur la poésie et sur des écrivains que vous admirez comme Ponge, Gertrude Stein ou encore Denis Roche. Vous publiez cette année Les Amours Chinois chez POL, un roman en vers, comme c'est indiqué sur la couverture, et qui fait suite à un précédent ouvrage, Les Enfants Chinois. Déjà un mot sur le titre, puisque vous réitérez en quelque sorte une licence, il n'y a pas de déterminant, on n'y dit pas les amours de Chino, mais les amours Chino. Qu'est-ce qui se cache dans ce petit creux-là ?
Alors d'abord, l'absence de déterminant, c'est en référence à des textes du Moyen-Âge que j'aime beaucoup, où la syntaxe de l'époque fixe le complément de nom de cette façon-là. Il y a une chanson de geste du cycle de Guillaume d'Orange qui s'appelle « Les enfants de Vivien ». Voilà, bon, c'est pas plus que ça. Sinon, que ça signale un rapport de ce que j'écris avec cette langue médiévale-là. Voilà. Quant au prénom de Chino, en Bretagne, d'où je viens, c'est un sobriquet du prénom Fanch, qui veut dire François. Et quand j'ai commencé ce cycle, dans lequel revient maintenant de façon récurrente ce petit personnage nommé Chino, j'avais répondu en fait à une commande du musée des Beaux-Arts de Lille qui me demandait un texte sur Goya. Il s'agissait de faire pas un commentaire de l'œuvre, mais une espèce de fiction à partir de deux tableaux de Goya magnifiques qui sont dans ce musée. Et le prénom de Goya est Francisco. J'avais donc fabriqué un petit personnage qui portait le prénom de Goya parce qu'il se baladait dans les œuvres du peintre. Et puis petit à petit, les choses se sont... Bon, ça se passe comme ça quand on écrit, hein, ont bougé, se sont transformés. Le personnage à l'origine espagnole est devenu plus armoricain, voilà. Et donc il s'est appelé François, puis French, puis Chino, et j'ai gardé ce prénom, voilà.
Alors c'est un ensemble, un cycle du coup, peut-être on pourrait dire, de 300 poèmes environ, qui sont regroupés en 18 chapitres, qui sont tous datés. Alors ils ne sont pas vraiment dans l'ordre chronologique, mais il y a quand même quelque chose d'une évolution d'amour d'enfance à des amours plus adultes, et ils ont tous la même forme, 3-4-1 rimés. Comment est-ce que vous avez pensé cet ordre-là ? Est-ce que c'est l'ordre de l'écriture, ou est-ce que c'est un montage, Christian Prigent ?
C'est un petit peu difficile de répondre parce que, en tout cas, il n'y a pas eu au départ un programme rationalisé, en tout cas, un programme à raisonner, qui aurait fait que, au bout du compte, l'ordre tel qu'il est publié aurait été prévu. Absolument pas. Voilà. Simplement, comme j'ai travaillé à partir de notes, de textes, de poèmes déjà rédigés d'ailleurs, qui figuraient dans des carnets, enfin. Comme travaille tout le monde, à vrai dire. J'ai été assez vite, à mesure que le travail avançait, confronté à la, la nécessité, je ne sais pas, mais au désir, à l'envie de donner à cela une construction. Alors, comme la construction était liée à des épisodes de vie, on va dire, celle qui se serait imposée d'une manière spontanée et banale, c'était une espèce de chronologie des amours, comme cela, partant du temps de l'enfance quasiment jusqu'à un moment plus récent. Mais c'est pas cela qui m'intéressait, dans la mesure où j'avais plutôt l'impression que des moments d'amour situés à tel moment de la vie faisaient d'une manière systématique écho à des moments d'amour situés à d'autres moments de cette vie. Donc c'est plutôt des conflagrations comme cela, des conflagrations de non pas d'ailleurs d'anecdotes, mais des conflagrations de sensations. Hein, le retour d'une sensation majeure éprouvée dans un temps d'énamourement X fait rejaillir, hein, produit des étincelles de rencontre avec des sensations semblables vécues à d'autres moments. Et donc la chronologie, c'est complexifiée, emberlificotée et reconstruite comme cela. Et c'est cette complexité-là que j'aime bien. Enfin, en tout cas, c'est celle qui m'a motivé. Ouais.
Alors, à côté de chaque date, puisqu'il y a des dates, entre parenthèses, il y a écrit quelque chose. Ça peut être pastel ou encore clairière avec zéro figure ou partie de campagne. Je me suis dit que c'était des titres, mais pas vraiment des titres des poèmes, plutôt des titres des tableaux qui seraient comme les grands absents, mais néanmoins les adjuvants de vos poèmes.
Oui, c'est une lecture parfaitement juste. La plupart de ces textes sont pensés comme des petits tableaux. Enfin, tableau à tous les sens d'ailleurs, parce que c'est à la fois tableau au sens peinture, croquis, enfin bon, une petite image comme cela, même si le fait qu'on travaille non pas dans le domaine de la peinture mais dans celui du langage fait que ces scènes sont plus animées. Enfin, il y a une cinématographie voulue, en tout cas, je ne sais pas si elle est réellement, mais voulue des scènes. Donc tableau dans ce sens-là, mais tableau aussi au sens où on dit en musique, hein, tableau d'une exposition, enfin les tableaux de voilà, ou bien le tableau au sens aussi les tableaux des revues de music hall, enfin voilà, quelque chose qui défile comme cela, au sens aussi des défilés justement pour le coup, et puis qui pourrait s'arrêter sur des images qui seraient des images mnésiques grosso modo, encore que plus grosso que modo en l'occurrence, bon, mais qui ne s'arrêtent jamais finalement sur ces images, puisque chaque poème, en tout cas c'est mon vœu, rebondit sur un autre, soit qui est déjà apparu dans les pages qui précèdent, soit qui va venir. Et en tout cas, les choses dans mon plaisir, en tout cas, doivent rester plus flottantes que le terme image ou tableau, dans ce sens-là d'image, ne le dirait.
Vous dites quelque part, à propos de mouvement, ça se lance quand j'ai la musique. Ce serait quel genre de musique pour Chino? Ce serait du musical, justement, Christian Prigent?
C'est très variable suivant les textes. En tout cas, ce ne serait pas la grande musique orchestrale. Ça serait quelque chose qui le plus souvent serait plutôt du côté de la chanson populaire, pas la variété, mais enfin pas ce qu'on appelle maintenant la variété, mais la chanson populaire au sens où Il pleut bergère ou Le roi Renaud sont des chants populaires, c'est-à-dire quelque chose qui fixe des cadences assez simples, assez stéréotypées, et qui par leur stéréotype même font malaxer comme ça, malaxe ou meule de l'émotion.
Je vois que vous êtes venu avec, je crois, un des poèmes de Chino. Est-ce que vous accepteriez de nous le lire, Christian Prigent?
Je suis venu parce que vous me l'avez réclamé, vous faites réclamer.
Ah non, on ne dit pas ça.
Ben, je fais cette petite remarque un peu imbécile, pardonnez-moi, mais parce que les poèmes en question sont pas du tout faits pour l'oral. Hein. J'ai écrit d'autres choses dans ma petite vie d'écrivain qui sont tournées vers l'oral, mais ceux-là, d'une certaine manière, ils sont posés dans une espèce d'atonie comme cela qui ne rend pas facile leur lecture, mais il n'y a pas non plus de raison de se dérober. 1988, sur le pouce. À vous va mon désir, il vous a mangé. Pour calmer sa faim, vous ne serez plus vous. Si je vous aime, vous êtes morte. Mon amour est le sentier qui porte aux zéros des cailloux et boue ce cadavre, énormément blanc, dissous dans des baves. Au bout, lui, le glaire ou ce qui fut vous au crochet des brumes pendues. On s'est vite gouttes vomies dans ce velouté d'oubli, madame, à peine servi, tout est consommé, même les tout petits grains du bout de vos seins rabotés.
L'auditeur ne vous voit pas, mais moi je vous voyais faire des gestes pour vous aider à la lecture. Ça fait longtemps que vous donnez des lectures publiques de votre œuvre, alors peut-être pas de Chino, c'est vrai que c'est difficile. Est-ce que ça vous fait découvrir de lire votre œuvre des choses que vous n'aviez pas perçues en écrivant, Christian Prigent?
Ça ne me le fait pas là, dans l'instant où je le fais maintenant, parce que le livre est un petit peu derrière moi, de par sa date de publication et plus encore sa date de rédaction. Ça me le fait d'une manière assez régulière quand je travaille, c'est-à-dire quand dans le temps du travail vient l'occasion, parce que c'est plutôt des occasions, de lire en public des textes, et le fait de les lire à la manière dont je le fais, c'est-à-dire en ayant pour seul objectif finalement de faire apparaître la manière dont ces choses-là sont écrites, comment c'est maîtré, comment c'est scandé, comment ça essaie de faire rebondir des échos sonores, comment ça respire. Voilà. Bon, quand on passe à l'épreuve orale, et en public en particulier, apparaissent les défauts principalement, c'est-à-dire ce qui ne fonctionne pas et qui, si on est un peu sérieux, je ne sais pas d'ailleurs si c'est une question de sérieux, mais un peu exigeant, disons, fait que, bon, on retravaille pour que la dimension démonstrative de cette exhibition formelle, parce qu'on ne fabrique que des formes quand on fait de la poésie, hein. Enfin, on fabrique des formes dont on cherche à ce qu'elles soient convaincantes, mais ce sont des formes que l'on fabrique. Bon, donc, qui fait qu'on parviendra à la forme la plus, évidente possible dans ces mécanismes, tout en étant la plus ambiguë possible dans les significations que cela fait circuler.
En 1969, Christian Prigent, vous fondez une revue TXT qui est aussi une collection. Qu'est-ce qu'il fallait défendre à ce moment-là et contre qui ou contre quoi vous l'aviez fondée?
Ben, ce sont des temps déjà un peu reculés, hein, les temps de la fondation de cette revue, puisque ça nous ramène en 1969. Je crois que c'était une époque où moi j'étais un tout jeune écrivain, un tout jeune intellectuel aussi, bon, pour dire les choses plus généralement, où ce qui se publiait majoritairement en France, en tout cas, mais je crois aussi en Europe, dans les revues de poésie, dans les collections de poésie, chez les éditeurs de poésie, ne satisfaisait pas. Quelques-uns de ceux qui arrivaient à 20 ou 25 ans à la publication, parce que ces formes-là, ces intentions poétiques-là ronronnaient, c'était notre point de vue, hein, sur des formules lyriques ou engagées ou quoi que ce soit de ce domaine-là, dont il nous semblait qu'elles étaient usées. Donc il fallait simplement... Bon, je pense pratiquement à tout ce qui a suivi en France la dernière des expériences violentes qui avaient eu lieu, à savoir le surréalisme. Voilà. Pour moi, les poètes c'est violemment subjectif ce que je dis, mais cette subjectivité violente ensuite se défend intellectuellement, s'argumente polémiquement et s'exemplifie pratiquement. Donc c'est à la fois c'est un subjectif qui débouche sur une bibliothèque objective. C'est pour ça que je n'ai pas honte de le dire et d'en assumer la parfaite subjectivité, voilà. Bon, mais pour moi, par exemple, tout ce qui s'écrivait du côté de ce grand poète qui vient de décéder, Yves Bonnefoy, tout ce qui s'écrivait dans son périmètre chez des poètes comme André Dubouchet, les poètes de l'éphémère, tout ce qui s'écrivait, bien sûr, du côté des restes de la poésie engagée, modèle suite à la résistance, comme ça, enfin, le modèle action poétique, disons. Bon, tout cela faisait partie de ces choses, non pas qu'il fallait rejeter, mais qui ne faisait rien raisonner de mon désir, ne faisait rien raisonner du désir des quelques compagnons avec lesquels j'ai fondé cette revue. C'était des choses qui nous semblaient à la fois obsolètes, ennuyeuses, d'une tristesse terrible, sans énergie. Voilà, c'est inexact, bien sûr, c'est inexact, et je sais qu'on pourrait me rétorquer beaucoup de choses par rapport à cela, mais c'était la sensation qu'on avait, et qui était vécue dans une espèce de jubilation. Hein, quand on arrive à 20 ans dans le champ de la poésie, et que tout ce qui se publie autour de vous vous paraît dérisoire, lamentable, pitoyable, vieux, ennuyeux, on est dans une colère et une joie qui donne une force énorme.
Vous avez publié un texte qui s'appelle « Ceux qui merdrent », un rapport avec Hubert Roy, j'imagine. Le poète est donc un emmerdreur. C'est-à-dire, quelle est la violence nécessaire, peut-être, que vous venez aussi d'exprimer? Est-ce que c'est une violence politique? Est-ce que c'est politique comme emmerdement, ce que doit ou ce que peut faire le poète, Christian Prigent?
Vous savez, un poète, enfin, moi, je n'ai pas une définition, comment dire, étroite du poète. Pour moi, poésie égale littérature, c'est-à-dire bon, une certaine posture dans la langue qui ne se satisfait pas du donné nommé, du donné à raisonner, du donné construit par les formules linguistiques grâce auxquelles, dans le monde, heureusement, nous nous repérons à peu près, et grâce auxquelles aussi, comme on est en train de le faire maintenant, nous essayons tant bien que mal de communiquer. Voilà, quelqu'un qui ne se fait pas de cela, c'est-à-dire qui considère que la teneur sensorielle, intellectuelle et sensuelle juste de l'expérience qu'il fait du monde n'est pas représentée par ces formes-là du langage contractuel, ce quelqu'un-là est un poète. Ce quelqu'un-là est un poète, qu'ensuite soient les opérations qu'il pratique dans la langue, dans des formes qui peuvent être définies comme poétiques ou non. Voilà. Bon. Donc, ça veut dire que celui qui est dans cette posture-là, il intervient sur le réseau des représentations qui, à une époque donnée, dans un moment historique donné, dans un moment culturel donné, fait consensus pour que le monde, par ce réseau-là, soit efficacement représenté. Et si on ne se satisfait pas de cette représentation, comme je disais, et si on produit des gestes pour produire un autre type de représentation, on produit forcément un geste politique. Il n'est pas directement politique, il est on dira plutôt, il est idéologique, c'est-à-dire il intervient au lieu même où la littérature intervient, à savoir non pas le lieu du réel, mais le lieu des représentations. Voilà. C'est pour ça que je pense que c'est politique. Je pense pas que c'est politique quand on dit, quand on dit frontalement le bien ou le mal en politique, quand on déclare une opinion politique, quand on déclare des opinions politiques, quand on produit des analyses politiques, toutes choses qui sont absolument nécessaires du côté de l'essayisme comme du côté de l'action civique, disons. Mais on est politique en tant qu'écrivain, quand on ne se satisfait pas du réseau linguistique idéologisé.
Tous les jours, on demande à l'invité de notre partie portrait de venir avec un son, une musique qui pour eux est une musique d'été, leur tube de l'été. Et vous, Christian Prigent, vous avez choisi ça.
Quel bonheur pour moi le dimanche matin, quand je vous rencontrais dans le petit jardin. Le cœur rempli d'émoi, je vous disais bonjour, et vous me répondiez, allez-vous bien, amour. Vous n'êtes pas venu dimanche, pourquoi? J'avais mis une robe blanche à poids. Je vous ai cherché sous les branches, partout j'entendais votre voix. Vous n'êtes pas...
Christian Prigent, vous, votre tube de l'été, c'est une valse.
C'est pas en tant que valse que je la choisis, vu mes incompétences dans ce domaine, mais c'est parce que, en fait, quand on parle poésie, comme on vient de le faire, et comme vos questions forcément m'y invitent, il y a toujours une espèce de gravité, il y a toujours un peu de solennité. Les poètes ont toujours un peu le mollet intellectuel cambré, comme ça. Donc, mettre un petit peu de légèreté dans cette profondeur, ou apparente profondeur, je trouve que c'est bien. Et les airs d'opérette, en fait, ont beaucoup intéressé les poètes depuis toujours. Jarry, par exemple, était friand de ce genre de musique et écrivait lui-même des livrets d'opéra. Bon, c'est ce genre de musique, dans sa légèreté assumée, produit cet effet-là, donc celui que je viens de dire. Mais en plus, il y a autre chose, il y a une espèce de virtuosité, par exemple, dans l'usage de la rime. Enfin, c'est cette rime entre sur laquelle tombe la robe blanche à poids. Voilà, c'est quand même formidable. C'est-à-dire que tout d'un coup, quelque chose qui est de l'ordre du mélodramatique, justement pour le coup, qui est de l'ordre de la sentimentalité la plus kitsch qui soit, la plus convenue qui soit, produit un petit geste qui porte sur un seul mot, même d'ailleurs qui porte sur un seul son, et qui tout d'un coup fait irradier pas de l'humour, mais du comique, une espèce de faille comique qui est magnifique, je trouve.
Mais la jubilation, c'est quelque chose qui est tout à fait à l'œuvre dans votre littérature. Il y a quelque chose de l'anti-sérieux. Est-ce que la gaieté, peut-être c'est le mot, la gaieté, c'est une valeur littéraire pour vous, Christian Prigent ?
La bonne humeur. C'est-à-dire, très souvent, peut-être même le plus souvent, le besoin de faire littérature, le désir de faire littérature, bon, je ne parle pas de la littérature qui occupe les gondoles, mais la littérature, part d'expériences assez... Enfin, d'une expérience de la vie assez douloureuse. Douloureuse, pas au sens romantisé du terme, mais un désaccord avec la vie. Voilà, c'est Proust hein, qui parle de ça, le courant douloureux qui fait écrire. Alors, on peut bâtir des tartines romantiques sur cette douleur fondatrice, et puis se contenter de faire que la littérature soit le remâchage... La redigestion, la rumination perpétuelle de cette souffrance qui est le fait de l'être, enfin qui est la maladie ontologique, hein, c'est pas spécifique à des individus. On peut se contenter de ça et il y a dans l'histoire de la littérature, en France en particulier, mais pas seulement, une tradition de cette broderie infinie sur la souffrance qui cause le fait même d'écrire. Moi, je pars un peu de ça avec l'idée simplement que... simplement... C'est tout sauf simple cette affaire, mais disons simplement que le fait même de mobiliser des formes solides, propres au sens net, nettement dessinées, solides au sens qui tiennent dans le temps, qui sont sursaturées de l'intérieur de procédures par elles-mêmes vivantes, tout cela est un facteur de production de la jubilation. Et c'est une, et comment dire, et devrait aboutir sur une victoire, sur cette espèce d'accablement mélancolique qui peut-être est à l'origine pourtant du fait d'écrire.
De la même manière, vous allez dire que je suis obsédée par la question politique, mais je sais que le carnaval est un principe esthétique auquel vous adhérez. C'est aussi un grand moment justement d'inversion des rapports de classe et de défoulement social. Est-ce que la poésie a à voir avec ça, pour vous, Christian Prigent ?
La poésie, pas en soi. Une certaine forme de littérature, oui. La littérature à laquelle moi j'ai... avec laquelle moi j'ai eu du plaisir, enfin qui m'a ouvert le monde, qui m'a fait percevoir le monde autrement que je ne l'aurais perçu si je n'avais pas lu, voilà. C'est une littérature qui a la capacité de passer sans cesse dans un glissement vivant du plus dramatique, du plus cruel, au plus bouffon, au plus drôle, au plus carnavalesquement pour le coup renversé. Ouais, Rabelais, par exemple, mais bien d'autres. Mais je ne suis pas Rabelais parce qu'on cite toujours Rabelais, puis qu'après tout, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Mais bon, quand même, surtout que dans la littérature française, c'est une telle exception. Que, voilà. C'est-à-dire une littérature qui partant du malaise de l'être dans le monde et du monde comme malaise, politiquement, entre autres, politiquement dans le cadre de Rabelais, par exemple, hein, bon, est capable d'arracher à ce malaise quelque chose d'une vitalité qui est le défi comme ça qui est jeté au monde de la même façon que les damnés de la terre, si j'ai pas oublié le caractère politique de votre question, sont toujours ceux qui jettent au monde le défi de leur insistance à vivre.
Christian Prigent, dernière question parce qu'on manque de temps. Est-ce que Chino va continuer à grandir?
Alors Chino va s'intéresser au sport.
Au voilà. Vélo.
Vélo, football, enfin surtout vélo, c'est vrai, oui. Oui.
Je crois que vous aimez beaucoup le vélo. Est-ce que la poésie, pour vous, c'est du langage dopé ?
Du langage dopé, enfin du langage un peu survitaminé, oui, ça veut dire du langage qui se chatouille lui-même un peu sous les aisselles pour rire, quoi, voilà, c'est ça, qui se monte un peu du col encore une fois, par rapport à ce que je disais, pour échapper à la fatalité mortifère du langage idéologisé et du langage médiatisé aussi, enfin du langage qui est notre forme d'assujettissement au monde.
Un grand merci à vous, Christian Prigent, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que Les Amours Chinois a paru chez POL comme une grande partie de votre œuvre. La grande table d'été s'est terminée pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain à 12h45 avec une table ronde spéciale Roald Dahl à l'occasion de la sortie du Bon Gros Géant de Spielberg. Et puis nous recevrons le compositeur Philippe Hersant. La session musicale sera signée Romain Pinsol.
Merci à toute l'équipe de la Grande Table d'été présentée par Lucille Como, avec la collaboration d'Aïssa Touendoy, Boris Pinault, Anne-Catherine Lochard, Lucie de Pertuis, Lila Bozès et Anna Baron. À la réalisation Alexandra Malka, aujourd'hui à la technique Élise Le et au droit d'auteur Julie Guéroux. Vous pouvez réécouter l'émission et la podcaster sur franceculture.fr et nous suivre sur les réseaux sociaux.
Merci Anna.